Bonsoir à tous. Un membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, interrogé en ce moment par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, Patrick Strauda, son directeur de cabinet, audition suivie par Stéphane Robert. Auparavant, Édouard Philippe a revêtu l'armure du chevalier portant les couleurs de l'exécutif. Une séance de questions au gouvernement au cours de laquelle il a récusé le terme d'affaire d'État, compte rendu dans ce journal signé Sophie Delpont. 40 migrants bloqués sur un navire au large de la Tunisie, un navire dont personne ne veut. Nous verrons avec Mathieu Laurent comment survivent ces réfugiés flottants. Le bilan des incendies en Grèce ne cesse de s'alourdir, 74 morts. Dans le nord de l'Europe, les records de chaleur sont battus haut la main. Le climatologue Jean Jouzel nous expliquera pourquoi les terres blanches proches du cercle polaire virent tout rouge. Les défenseurs de l'environnement paient un lourd tribut à leur combat. L'ONG britannique Global Witness a compté 207 personnes tuées l'an dernier. L'agro-industrie est devenue la plus meurtrière dans le monde, nous dira Justine Dinchet. Depuis un peu moins d'une heure et demie maintenant, Patrick Strauda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, répond aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Audition attendue, très attendue, puisqu'elle concerne le cercle le plus proche du chef de l'État, cabinet au sein duquel, rappelons-le, Alexandre Benalla avait gagné ses galons de chargé de mission. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
À l'heure qu'il est, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus.
Oui, enfin un petit peu quand même. Cette audition se poursuit. Actuellement, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron répond précisément aux questions que lui posent les députés de la commission des lois. Mais pour le moment, c'est vrai que les premières réponses de Patrick Strauda ne permettent pas vraiment de lever les contradictions apparues au fil des révélations qui se sont succédées ces derniers jours. Tout d'abord, sur l'autorisation qui avait été donnée à Alexandre Benalla de se rendre aux côtés des forces de l'ordre le 1er mai, il reconnaît que c'est Laurent Simonin, chef d'état-major de la préfecture, qui l'avait invité et qu'il a supposé, lui, Patrick Strauda, de ce fait que la hiérarchie, à savoir le préfet, en avait été informé. Ensuite, sur ce qui s'est passé, sur le comportement violent de Benalla, il dit en avoir été informé le lendemain, donc le 2 mai, qu'il a convoqué l'intéressé, qu'il l'a informé qu'il avait eu un comportement fautif et que dans ces conditions, il allait être sanctionné. Cette sanction, c'est lui, Patrick Strauda, qui a décidé de ce qu'elle devait être. D'abord, une suspension de 15 jours, ce à quoi il a ajouté que Benalla n'avait participé à aucune réunion préparatoire entre le 2 et le 22 mai. Contrairement à ce qu'on a entendu hier soir, à ce qu'a dit le directeur de l'ordre public et de la circulation Alain Giblin, avant ce matin de se rétracter. Et puis, deuxième élément de la sanction, Benalla a été rétrogradé, a dit Patrick Strauda. Il n'avait plus pour mission de participer au déplacement du président de la République et pourtant il y excellait, ajoute-t-il. Alors comment expliquer que Benalla se trouvait aux côtés d'Emmanuel Macron à certaines occasions, par exemple le 1er juillet pour la panthéonisation de Simone Veil ou encore dans le bus de l'équipe de France de football? Eh bien, parce qu'il était très apprécié, dit Patrick Strauda, et extrêmement disponible, et que dans un contexte de réduction du nombre de collaborateurs, ses dons ont été sollicités, d'abord pour ce qui était organisé à l'intérieur du palais de l'Élysée, ça, cette mission-là a été maintenue, et puis pour des occasions un peu exceptionnelles, comme on a pu le voir. Enfin, il vient d'indiquer, ça c'était à l'instant, qu'Alexandre Benalla allait être remplacé par quelqu'un qui sera recruté prochainement à effectif constant, a-t-il précisé, et puis son audition se poursuit en ce moment.
En ce moment, merci Stéphane Robert. Et avant cette audition, comme prévu, la séance traditionnelle de questions au gouvernement a été dopée, elle aussi, par cette affaire. Édouard Philippe, en tant que chef de l'exécutif, a dû répondre au chef de groupe. L'une des phrases prononcées par le Premier ministre a le don de fixer quelques bornes. Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette séance pour France Culture.
Oui, dans un hémicycle électrique, le président du groupe Les Républicains, Christian Jacob, a lancé la première attaque.
Monsieur le Premier ministre, les Français se posent une seule question. Pourquoi M. Benalla est à ce point protégé et privilégié par M. Emmanuel Macron? Et enfin, compte tenu du silence du président de la République, je vous demande solennellement si oui ou non cet individu est en situation d'exercer des pressions sur le président de la République française.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Édouard Philippe apparaît tendu, le visage fermé, il se racle la gorge, les mains sur le micro.
Vous m'interrogez sur une question qui suscite commentaires, énervement, interrogation.
Vacillant, fébrile en début d'intervention, il se montre ensuite combatif. Le chef du gouvernement sait l'importance de la crise, c'est pourquoi il fait tout pour la minimiser.
Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Les copinages malsains qui ont été hier en commission d'enquête évoqués par le préfet de police ne font pas une affaire d'État.
Le Premier ministre est ovationné debout par les députés de La République En Marche. « Nous n'avons rien caché », répète Édouard Philippe. Droit dans ses bottes, donc, il répond notamment sur le thème de la République exemplaire.
« Une République exemplaire, c'est lorsqu'un comportement n'est pas jugé acceptable, d'en tirer les conséquences, de sanctionner immédiatement, de respecter les procédures. Dès que ces faits ont été révélés, une sanction a été prise, une sanction dont je considère qu'elle est proportionnée. »
Il répète cette phrase, elle est proportionnée cette sanction. Interpellé par le député socialiste Olivier Faure qui accuse le président Macron d'avoir privilégié des passe-droits à l'état de droit, Édouard Philippe lui rappelle l'affaire Cahuzac. Mais derrière le Premier ministre, la pression n'est pas retombée envers le président de la République, maintes fois accusé par les députés qui réclament de l'entendre. Emmanuel Macron qui ne pourra pas tenir encore longtemps sa stratégie du silence.
Merci Sophie Delpont avec les moyens techniques de Marcos Daras en direct de l'Assemblée nationale. Ajoutons que le Premier ministre Édouard Philippe a assuré tout à l'heure, devant cette même assemblée, que l'exécutif ne renonce en rien à tenir les engagements pris pour réformer les institutions, en dépit du report à la rentrée de la fin de l'examen de la révision constitutionnelle. Ils ont quitté les côtes libyennes il y a un peu plus de 2 semaines avant d'être repérés par un navire envoyé par un centre de secours maltais. Ils ont été recueillis par un navire d'approvisionnement battant pavillon tunisien. Depuis 8 jours, 40 réfugiés, venus pour la plupart d'Afrique subsaharienne, survivent dans des conditions de plus en plus précaires à bord du Sarost 5. Le capitaine de ce bâtiment refuse en ce moment toute aide médicale. Il espère obtenir le feu vert de Tunis pour accoster. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir à vous.
De quelles informations disposons-nous ce soir sur ces rescapés ?
Eh bien, l'atmosphère à bord du Sarost 5 est épouvantable. Vantable au large de Zarzis, dans les eaux territoriales tunisiennes. Le bateau endure une houle qui délave le pont, où sont allongés dans l'humidité ces 40 réfugiés. Olivia Santer, de l'ONG Watch the Med Alarm Phone, veille sur eux.
Ce sont des personnes qui sont traumatisées en état de choc. Il y a des cas déclarés de gale. Et surtout, l'urgence principale, c'est qu'il y a 2 femmes enceintes à bord qui doivent voir un médecin absolument. 40 personnes sur un navire qui n'est pas du tout adapté à l'accueil de ces personnes-là.
Le Sarost 5 propose de l'eau potable en quantité. Les vivres ne manquent pas et demain, une navette du Croissant Rouge apportera des médicaments. Mais pas question de laisser une équipe médicale monter à bord.
Je pense que le capitaine du bateau est dans une situation très délicate et c'est possible qu'il ait envie de faire pression sur les différentes autorités. Vu le contexte politique actuel et la fermeture des ports en Italie et à Malte, je pense que les autorités tunisiennes ont particulièrement peur d'un précédent, juste parce que les États européens ont décidé de fermer leurs ports aux bateaux en détresse.
Tunis, qui se mure dans le silence, n'a pas l'intention de céder aux instrumentalisations politiciennes, identitaires, aux lâchetés européennes, aux dépens de ces miraculés de la Méditerranée.
Merci Mathieu Laurent, à propos donc de ces 40 réfugiés en ce moment en Méditerranée. Une catastrophe technologique au Laos, l'effondrement d'un barrage en construction qui a effacé 6 villages de la carte. Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues, 6 000 autres se retrouvent sans abri. Le barrage hydroélectrique était construit sur un affluent du Mekong, destiné surtout à fournir de l'énergie au pays voisin, la Thaïlande. L'armée israélienne affirme avoir abattu aujourd'hui un avion de combat syrien qui aurait pénétré dans son espace aérien, ce que conteste d'ailleurs formellement Damas. Le régime syrien mène depuis plus d'un mois maintenant dans les provinces du sud de la Syrie, des régions qui bordent le plateau du Golan occupé et annexé par Israël. La Grèce, quant à elle, la Grèce continue de compter ses morts, victimes des incendies à l'est d'Athènes. Le décompte macabre fait état maintenant de 74 morts. Il s'alourdit d'heure en heure, faut bien le dire, tout près du bilan catastrophique des sinistres de 2007. L'image la plus pathétique est celle de ces 26 personnes retrouvées, carbonisées, serrées les unes contre les autres dans la cour d'une maison ravagée par les flammes. Elles n'ont même pas eu le temps de se réfugier sur la plage pourtant toute proche. Le nord de l'Europe subit également une vague de chaleur et de sécheresse aux conséquences dramatiques avec des incendies de la Norvège jusqu'à la Lettonie en passant par la Suède où 25 000 hectares sont partis en fumée. La Suède qui connaît le mois de juillet le plus chaud de son histoire depuis au moins 2 siècles et demi. Signe inquiétant bien sûr selon le climatologue Jean Jouzel, vice-président du GIEC, le groupe international d'études sur le climat. Il rappelle que les températures ont dépassé là-bas les 30 degrés.
C'est lié à un système de haute pression qui se maintient et qui risque de se maintenir jusqu'à la fin de ce mois. Il faut voir aussi que le réchauffement climatique en Scandinavie, dans les régions de l'Arctique, est en moyenne 2 fois plus rapide qu'il ne l'est à l'échelle de la planète. C'est lié à la fonte. Il y a moins de glace de mer, il y a moins de surfaces enneigées actuellement qu'il y a ont la propriété de renvoyer une large partie du rayonnement solaire vers l'atmosphère. Et il y aura de plus en plus fréquemment des températures records qui seront battues de par le monde à mesure que le réchauffement climatique va se mettre en place. Par exemple, en Europe, actuellement, on a 3000 décès par an, on risque d'aller vers 150 000 décès par an, et l'essentiel lié aux périodes de canicule. Disons, à échelle d'une dizaine d'années, par exemple, on prévoit des températures records qui seront 2 à 3 degrés plus chaudes qu'actuellement, y compris en France. Et dès 2025, elles pourraient arriver à 45 degrés. Donc, disons, pratiquement 2/3 des Européens auront à faire face à des extrêmes climatiques. On a ce sentiment que l'Europe est un continent, disons, moins vulnérable que d'autres, que ce qui est bien le cas, mais l'Europe est quand même très vulnérable au réchauffement climatique. Et donc, c'est des choses que nous répétons depuis 20 ans, 30 ans, mais il faut vraiment que les gens aient à faire face à ces difficultés pour qu'elles en prennent conscience. Et malheureusement, il y a un risque qu'il soit trop tard pour lutter contre le réchauffement climatique de façon efficace.
Le climatologue Jean Jouzel, interrogé par France Culture, par Tara Schlegel pour France Culture. Et puis une autre image du dérèglement climatique assez spectaculaire également, plus proche de nous d'ailleurs, aux Pays-Bas. 12 ponts ont dû être fermés à Amsterdam. La chaleur extrême pourrait en effet carrément tordre le métal. L'année 2017 a été la plus meurtrière dans le monde, en tout cas pour les défenseurs de l'environnement. Au moins 207 personnes tuées l'an dernier dans 22 pays. C'est un record selon l'ONG britannique Global Witness qui effectue ce recensement depuis 2002. Et cette année, l'organisation pointe une forte augmentation des assassinats liés en fait à nos biens de consommation. Justine Dinché.
Oui, c'est le secteur de l'agro-industrie et non plus celui de l'extraction minière qui concentre le plus grand nombre d'attaques contre les défenseurs de l'environnement. Un quart des homicides, soit une cinquantaine, sont liés à des conflits agricoles à propos de la déforestation, de la culture d'huile de palme, de banane ou encore de café. Selon l'ONG Global Witness, le lien est très clair entre ces violences et nos produits de la vie quotidienne. Ben Leeser est un des auteurs de ce rapport. Il lance un appel aux consommateurs.
Pour la première fois, les industries agricoles à grande échelle sont les plus susceptibles d'être liées au massacre. C'est important de dire que les gouvernements et les entreprises s'entendent pour s'approprier des terres dans l'espoir de réaliser un profit rapide et de répondre précisément à la demande des consommateurs. C'est-à-dire que nous, les consommateurs, nous avons un rôle, nous avons aussi une responsabilité. Les défenseurs de l'environnement sont la première ligne de la lutte contre le changement climatique. Et s'ils sont à risque, notre planète est menacée.
Et avec 57 homicides en 2017, le Brésil est le pays le plus meurtrier pour les défenseurs de l'environnement, d'après les calculs de l'ONG. La majorité de cette criminalité se concentre en Amérique latine, même si le continent africain et surtout le Congo n'a pas été épargné l'an dernier avec des attaques sur fond de lutte contre le braconnage ou de disputes minières. Enfin, c'est un record pour s'être opposé à des projets miniers ou agricoles. 48 personnes ont été tuées aux Philippines, c'est du jamais vu dans un pays asiatique.
Merci Justine Dinché. Hassan Rouhani s'exprime ce soir à la télévision iranienne, allocution qui prend un relief tout particulier dans le contexte de l'escalade verbale entre les États-Unis et l'Iran. Les responsables gouvernementaux de l'État islamique se succèdent pour répondre aux propos agressifs de Donald Trump. Dernier en date, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, Téhéran, ripostera avec force, a-t-il déclaré, à une poursuite des menaces américaines. La Chine va investir 14 milliards de dollars en Afrique du Sud, accord formalisé tout à l'heure, cet après-midi, entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue chinois Xi Jinping, à la veille de l'ouverture à Johannesburg du sommet des dirigeants des BRICS. Les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Sommet où il sera forcément question de la guerre commerciale déclenchée, là encore, par Donald Trump. La disparition d'une figure du féminisme, Oksana Stachko, l'une des fondatrices du mouvement des Femen, retrouvée morte dans son appartement parisien. Elle avait 31 ans, elle aurait laissé une lettre de suicide. Avec d'autres militantes, elle avait initié en 2008 le mouvement radical Femen dans son pays, l'Ukraine, des actions seins nus pour revendiquer les droits des femmes ou dénoncer l'influence des religions partout dans le monde. 9 départements placés en alerte orange, canicule dans le nord et la région parisienne jusqu'à jeudi matin. Demain, la journée commencera sous le soleil avant de nouvelles menaces orageuses. C'est la fin de ce journal préparé avec Emmanuel Faucillon. Prochain rendez-vous avec l'information 22h. Ce sera Clarence Rodriguez qui sera aux manettes. Très bonne soirée à tous.